Qu'est-ce que la vérité ? La question de Pilate a fait le tour du monde. Elle est devenue un sujet type du bac de philo. Oui. Mais elle nous pose une question redoutable, celle de la vérité, même plus que cela, celle de notre rapport à la vérité. Cette question de la vérité, elle est vieille évidemment comme le monde. La vérité a une histoire. Elle n'a pas toujours eu le même sens, la même définition, celle que notre monde moderne, occidental, lui donne aujourd'hui. Les définitions de la vérité ont varié, comme ça, tout au long de l'histoire, selon les époques, mais aussi selon les lieux et les cultures. Nous, spontanément, on a bien l'impression de savoir ce que c'est que la vérité. Depuis la petite enfance, à la maison, on nous apprend à distinguer entre la vérité et le mensonge. Non, les bonbons qui manquent dans le paquet n'ont pas pris la fuite tout seuls parce qu'ils se trouvaient trop à l'étroit dans leur sachet. Ça, c'est la version du bébé, du petit. Dis-moi la vérité, voilà. Tu les as mangés, n'est-ce pas ? En cachette. Et en fait, on voit que la vérité ici, c'est le contraire du mensonge, tout simplement. Mais en vérité, c'est plus fin que ça, plus complexe que ça, la vérité. Si on remonte le cours de l'histoire, on va voyager un peu, on peut découvrir des choses assez intéressantes. Dans les sociétés qu'on peut appeler tribales, comme en Nouvelle-Calédonie, que j'ai pu connaître à une époque de ma vie, eh bien la vérité, là-bas, traditionnellement, hein, c'est un monde occidental aussi, et moderne la Calédonie, mais disons, on parle des choses un petit peu ancrées dans les cultures profondes. La vérité, c'est ce que je crois, ce que croit, ce que pense et ce que fait ma tribu. La Nouvelle-Calédonie, vous savez, c'est un tout petit territoire qui est traversé par une chaîne de montagnes, du nord au sud, comme ça. Et il y a des vallées qui descendent vers la mer, une vingtaine. Chaque vallée a sa tribu. Chaque tribu a sa langue. Il y a 28 dialectes en Nouvelle-Calédonie. Dans un pays à peine deux fois plus grand que la Gironde. C'est fou. Quand vous sortez de votre tribu, vous passez dans la vallée d'à côté, vous passez à l'étranger. Il y a un dedans, un dehors, la vérité, la compréhension du monde, la compréhension de Dieu, la compréhension de soi-même, c'est un peu plus flou, parce que soi-même, c'est la tribu, en fait. Eh bien, tout cela est soigneusement fabriqué à l'intérieur de ce monde-là. C'est vrai qu'on retrouve dans notre monde moderne cette dimension tribale, hein, dans certains clubs de foot, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ou dans certaines régions de France. Allez dire à un Béarnais qu'il est basque. Vous allez voir sa tête. La vérité, c'est ce que dit mon groupe, c'est ce que dit ma famille, c'est ce que dit mon église. On nous transmet des vérités sur le monde, sur les relations humaines, sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur Dieu, évidemment, tout au long de notre enfance. Et tout cela est vérité pour l'enfant qui grandit auprès de ses parents, jusqu'à ce que l'adolescence arrive. Et là, la vérité est mise à l'épreuve. Elle est rudement mise à l'épreuve, elle est questionnée, elle est quelquefois malmenée, quelquefois même abandonnée. Et oui. Voilà une première définition de la vérité. On pourrait en parler beaucoup plus, beaucoup plus précisément. Hein. C'est ce que nous... En fait, c'est la vérité, là, c'est ce que nous croyons contre ce que croient les autres. Voilà. Dans la Bible, le monothéisme d'Israël... est un exemple hein, de cette relation à la vérité, seul contre tous les autres, Israël entouré des nations polythéistes, environnantes. Le rapport à la vérité dont Jésus nous parle dans ce passage de Jean XIV et dans son entretien avec Pilate, me semble dire autre chose. Il explique à Pilate qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate l'interroge, qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, Pilate ne le sait pas, mais le lecteur de l'évangile de Jean le sait, puisque 4 chapitres avant, la question de la vérité a été développée par Jésus. Et là, on apprend quelque chose qui va tout à fait à l'encontre de ce que nous avons dit jusqu'à présent, c'est que la vérité, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un concept. La vérité, ce n'est pas une morale. Ce n'est pas une somme de choses à croire. Non, la vérité, c'est moi, dit Jésus. La vérité, c'est moi. J'aime bien cette traduction de la parole de vie dans les traductions secondes, c'est « je suis, moi, je suis la vérité ». Alors, ça fait un peu prétentieux comme déclaration. Et il faut s'interroger sur ce que veut dire Jésus en disant « la vérité, c'est moi ». Moi, j'entends cette affirmation solennelle de Jésus comme une révélation et aussi comme une mise en garde. Il nous dit que la vérité, ce n'est pas quelque chose d'absolu, un contenu qui pourrait être reçu de manière tout à fait objective, indiscutable, définitive, et qui resterait simplement à confesser. Il y aurait comme ça un credo clair, exhaustif, qui dirait toute la vérité, rien que la vérité. Jésus ne dit pas exactement cela. Il dit « la vérité, c'est moi ». Et avec cette petite phrase, il y a 3 mots, hein, « la vérité, c'est moi ». Il fait disparaître toute prétention de tout système, de tous les temps, de tous les lieux, à saisir et à parler au nom de la vérité. Parce que pour Jésus, la vérité, ce n'est pas quelque chose à connaître, à étudier, même à croire. La vérité, c'est d'abord quelqu'un. Quelqu'un à rencontrer. C'est cela, fondamentalement la vérité. Une rencontre, une relation unique, personnelle, avec lui. On peut appeler ça une révolution. Tous les modèles de vérité de tous les temps, de toutes les cultures, explosent sur cette parole. La vérité, c'est moi. Et cette parole, entendez-le bien, elle n'a pas pour seul destinataire les vilains non-croyants qu'il faut évangéliser et qui confessent la vérité ambiante, celle de leur temps, l'humanisme ou plus encore à notre époque celle de l'individualisme. Non, cette parole impacte aussi tout aussi violemment les bons chrétiens évangéliques que nous sommes et qui ont tendance un peu à brandir la Bible en disant « la vérité, c'est ça ». Et moi, j'ai envie de les questionner. Ok, la vérité, c'est ça. Oui, mais tu parles de quelle Bible ? La Bible Louis II ? Ou la Bible Parole de vie qu'on a lue ce matin ? Parce que mon frère, mon ami, la Bible n'a pas été écrite en français en 1910 par Louis II. Elle a été écrite en hébreu et puis en grec, en araméen même, il y a 3500 ans jusqu'à 2000 ans avant nous, dans des langues de l'Antiquité tout à fait différentes de la nôtre, sur le plan conceptuel et sémantique, et cette Bible que tu déclares la vérité avec un grand V, avant d'être un texte grec et hébreu, elle a d'abord été une parole prononcée en araméen. Et c'était une parole lancée au vent, une parole portée par l'esprit qui souffle à travers elle, une parole prononcée au gré des rencontres et des questions, des circonstances de la vie, une parole vivante. Et notre christianisme, dans sa version, dans sa confession protestante, n'est pas une religion du livre. C'est une religion de la parole. Vous sentez la distinction, la nuance ? Alors ceci dit, cette distance qui existe entre le texte original et au fil des traductions, ce que nous avons sous les yeux, tout cela, bien sûr, n'a pas à nous inquiéter. Cette distance, l'Esprit Saint a veillé, je le crois, à la transmission de cette parole au travers des textes et des écrits bibliques. Simplement, ces réalités-là nous invitent à un peu d'humilité quand nous parlons de la vérité. Quand j'ai envie de juger la foi de ce frère qui n'est pas exactement dans les clous de la vérité biblique telle qu'elle m'apparaît, eh bien, la première chose qu'il me faut faire, c'est je retourne au texte original, au grec et à l'hébreu, oui, et il y a même des pasteurs pour ça, au fait, hein, des gens qui ont fait un peu des études, qui peuvent vous aider. Ça, je fais c'est un peu de pub pour l'étude biblique. Et je vais me rendre compte qu'entre eux, et c'est très important, qu'entre les mots de ma vérité et les mots du texte original, bien, il n'y a pas, c'est pas la nuit et le jour, mais il y a de la place pour de la réflexion. Il y a de la place pour le questionnement. Et au bout de ce chemin, sans doute pour la conviction, mais une conviction sans doute moins fratricide. Alors, au lieu de brandir ma vérité, eh bien, je fais le choix d'approfondir la vérité biblique avec mes frères et mes sœurs en croisant nos lectures. Alors, ça prend du temps, ça coûte des efforts, c'est pas toujours facile, mais c'est salutaire pour sortir de ce rapport obscurantiste, exclusif et maladif à la vérité. Quand j'ai envie de pourfendre l'autre avec l'épée tranchante de ma perception de la vérité, la parole de Jésus résonne ce matin dans cette assemblée et elle me dit, elle retient mon bras, elle me dit, attends, tout doux, la vérité c'est pas toi, c'est moi. Et cette vérité personne, et non pas cette vérité verset biblique, cette vérité personne, elle n'a pas échappé à l'apôtre Paul. Il écrit, à propos de son métier d'apôtre, il dit ça. Le Christ nous a fait ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. L'esprit qui souffle donc par celui qui a parlé au tout début, quand on remonte la chaîne. L'esprit qui souffle sur celui qui a écrit ce qu'il a entendu dire. L'esprit qui souffle encore sur celui qui lit ce texte transmis au fil des âges. Ce texte qui, dans un miracle incroyable, redevient parole ici et maintenant dans ma lecture personnelle ou communautaire de la Bible. C'est d'ailleurs pourquoi, avant chaque prédication, je prends soin de prier Dieu qui vienne souffler sur cette méditation. Voilà ce qui se joue dans cette parole de Jésus. La vérité, c'est moi. Mais alors, évidemment, le monde a changé depuis Jésus. En Occident, les critères de la vérité, les cartes ont été complètement rebattues depuis l'Antiquité, les tribus. À partir du 15e siècle, il se passe quelque chose en Occident, jusqu'à la fin du 18e siècle. C'est ce 18e siècle qu'on appelle le siècle des Lumières. Eh bien, le rapport à la vérité a profondément muté. La vérité comme absolue a disparu. Et elle s'est fragmentée. Et on s'est mis à penser la vérité en termes de convictions personnelles, fruits d'expériences particulières. La vérité est devenue, peu à peu pluriel et complexe. On trouverait à peu près autant de vérités, d'ailleurs dans cette assemblée, autant de vérités politiques, religieuses, scientifiques, philosophiques que de personnes. On fera un sondage si vous voulez la sortie. Et les réseaux sociaux, eux, ont accéléré cette mise à disposition, ce foisonnement de la vérité ou des vérités, parmi lesquelles les plus nauséabondes, des évidences complotistes, qu'on partage en groupe, comme des évidences, comme la théorie du grand remplacement, pour n'en citer qu'une. Aujourd'hui, le point de vue personnel s'érige en vérité. Qu'il soit fondé sur une fake news, un mensonge donc. On s'en fiche, pourvu qu'il fasse du buzz. Alors là, je suis branché. Le poids de la vérité. Le poids de la vérité se calcule aujourd'hui, vous savez comment ? En nombre de vues sur YouTube. On s'en fiche, elle n'a pas de consistance propre, la vérité. Ce sont des robots qui décident de leur crédibilité. Plus on regarde cette ânerie, et plus les algorithmes en font la promotion. Et plus cette ânerie finit par s'ériger en évidence, en vérité. Bon, il faut pas nier aussi les effets positifs de cet émiettement de la vérité, surtout depuis l'effondrement du mur de Berlin notamment, mais dans les domaines politiques et religieux. On tue un peu moins au nom de la vérité qu'autrefois, même si notre Europe est en guerre, mais on part plus en croisade au nom de la vérité, même s'il reste encore quelques malades qui pensent gagner le paradis en se faisant sauter au milieu de la foule. Oui, ça existe. Non, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus faire la distinction entre une vérité et un mensonge. Et ça ne date pas d'hier, d'ailleurs. C'est depuis que le monde est monde. Ce qui a changé, c'est l'impact du mensonge. Le jour de la résurrection, je vous ai lu ça tout à l'heure, on voit bien les chefs religieux qui sont en train de fabriquer une fake qu'on croit encore aujourd'hui dans la région. On paye des followers pour raconter que les soldats ont dormi et que les disciples en ont profité pour voler le corps. Voilà, ça c'est le fake de Matthieu 28. On met en scène une vérité et on la martèle. Et elle devient vérité. Un mensonge qui s'érige en vérité. Et là, je crois que l'Église a aujourd'hui une mission urgente de protection de la vérité. Ça paraît un peu pompeux de le dire comme ça, mais je ne m'explique pas au sens doctrinal du terme vérité, mais au sens des valeurs communes qui font d'une société comme la nôtre. Des valeurs de partage, de respect, oui, d'égalité, de fraternité, oui, d'apprentissage aussi de connaissances utiles, communes, à l'élaboration d'un projet de société. Des apprentissages communs, de la lecture en particulier, et une protection en particulier auprès des enfants et des jeunes. Le chrétien ne peut pas rester enfermé au chaud dans sa vérité religieuse. Nous sommes envoyés par le Christ dans le monde pour rencontrer des gens, les gens, et les inviter à se réconcilier avec la vérité. La vérité sous toutes ses formes. Et pour cela, le chrétien doit veiller à ne pas se laisser lui-même emporter par le flot du mensonge. Il y a là sans doute beaucoup à faire. Et c'est pas évident que nous soyons des gens plus éclairés, de plus grands résistants à l'esprit du temps que la moyenne. Celui qui se revendique du Christ doit apprendre à se tenir dans une écoute vigilante, pas bienveillante, mais vigilante, critique des pseudo-vérités de droite et de gauche qui viennent polluer notre époque. Le chrétien n'a pas pour seule vocation à parler du salut et de la vie éternelle aux gens, ou des choses à croire, mais aussi à les accompagner dans cette vie. Cette vie qui ressemble pour tant et tant de nos contemporains à un véritable enfer, et à soulager la souffrance. Donner du sens peut-être à ce chaos existentiel en rappelant qu'il existe une présence qui fait sens, peut-être par le partage d'un moment de vérité. Le chrétien n'assène aucune vérité, il ne brandit pas la Bible. Il rencontre l'autre au nom de Jésus, le Christ, parce qu'il sait au plus profond de son cœur que la seule vérité en ce monde, c'est quelqu'un et non pas quelque chose. Le chrétien fait route avec celui ou celle qui se trouve sur son chemin pour faire un petit bout de route. Il ne marche pas devant en disant « c'est par là ». Il ne marche pas derrière en suivant toutes les âneries de l'époque. Il se tient à côté de son prochain. Et c'est dans cette marche côte à côte, fraternelle, dans cette présence confiante, amicale, que la vérité Christ pourra apparaître enfin, être rencontrée, saisie, chemin faisant, devenir vivante dans le cœur de celui qui marche avec nous, comme les compagnons d'Emmaüs, c'est un autre passage biblique. Je suis la vérité, le chemin et la vie, dit Jésus. Alors, laissons donc nos cœurs se remplir de cette vérité-là, de cette présence, de cette vérité à vivre, qui est le Christ.